France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
La vie de Tempête est passée après des années de crise. Le chef Laurent Campellone a pris en septembre la direction de l'Opéra de Tours. La crise managériale est passée, pas la crise sanitaire. Bonjour Laurent Campellone.
Bonjour.
Vous êtes avec nous ce matin pour nous présenter vos projets pour vos 3 années au moins comme directeur général de l'Opéra de Tours, avec donc des fonctions y compris administratives, on va en parler, pour nous présenter aussi la saison qui devait commencer là en janvier. Quand le premier spectacle en public aura-t-il lieu? Bien malin celui qui le sait. À défaut, est-ce que vous voyez des captations, des représentations diffusées en ligne?
Oui, comme tous les opéras, comme tous les orchestres de France, d'Europe, du monde, on est en train de voir comment garder un lien avec le public, comment conserver l'activité de nos ensembles instrumentaux, les chœurs aussi. Donc ça passe par des captations. Alors à Tours, il n'y avait pas encore cet instrument vidéo qui était en place à mon arrivée, ça n'existait pas. On est en train de le mettre en place, ça demande un tout petit peu de temps. Évidemment, ça coûte plus cher de jouer et de capter, et puis il n'y a pas le public, donc ça coûte encore plus cher. Donc
pas de billetterie, pas de billetterie.
Exactement, donc on est dans une équation très difficile financièrement. Mais elle est nécessaire, et à Tours, c'est très clair pour le maire et l'adjoint à la culture qu'il faut soutenir les artistes et garder ce lien important avec le public. Donc on est en train de mettre cette politique en place. Oui.
On fait déjà pour un spectacle prochain?
Oui, on va capter Don Pasquale à la fin du mois. C'est un événement.
Ah oui, donc dans quelques jours.
Dans quelques jours, c'est un événement puisque c'est la prise de rôle de Laurent Naouri, notre grand baryton français, un de nos grands barytons français, qui va chanter pour la première fois Don Pasquale.
Étonnant.
Oui, étonnant. Et on est très très impatient de ça, lui aussi je crois. Ça se fera à Tours, on va le capter, on le diffusera ensuite pour le plus grand nombre.
Donc rendez-vous tout prochainement pour ce Don Pasquale et cette prise de rôle de Laurent Naouri en ligne avec l'Opéra de Tours. Vous-même, comme chef, vous avez donné un spectacle pour la télévision, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était vendredi à l'Opéra Comique. Dans votre répertoire de prédilection, Laurent Campellone, la musique française était évidemment à l'honneur.
Peace.
le début du duo des fleurs avec les voix de Jody DeVos et Marianne Crébassa dans l'Acmé de Léo Delibes. L'orchestre de chambre de Paris dirigé par Laurent Campellone, notre invité ce matin, nouveau directeur général de l'Opéra de Tours depuis septembre. C'était un spectacle intitulé Chantons, faisons ta page qui a été diffusé sur France 5 vendredi et qui est toujours disponible, mis en espace par Thomas Joly, que vous avez imaginé, qu'on peut donc revoir. Vous n'aviez pas dirigé depuis quand avant ce concert-là?
De l'opéra depuis février dernier, donc ça faisait 9 mois pratiquement, 9 mois, oui. C'est une situation inouïe. C'est comme les chanteurs, les musiciens de l'orchestre de Tours, par exemple, qui se sont retrouvés il y a quelques semaines et qui n'avaient plus joué ensemble depuis le mois de mars. Bon, voilà, c'est la même chose. Je pense aux musiciens du Metropolitan Opera, qui n'ont plus joué ensemble depuis un an. Enfin, c'est un vrai drame pour tous les orchestres et toutes les maisons lyriques, quoi.
D'ailleurs, les musiciens de l'orchestre symphonique, puisque vous en parlez de la région Centre-Val-de-Loire-Tours, sont pas des musiciens permanents, donc quand ils ne jouent pas, exactement, ils ne sont pas payés, ça on ne le sait pas forcément.
Exactement, donc c'est une situation qui est non seulement psychologiquement, professionnellement difficile, mais ça met beaucoup de gens aujourd'hui dans des situations financières catastrophiques, avec des personnes qui sont obligées de demander de l'argent autour d'elles, de changer de métier, d'envisager de changer de métier. Enfin, c'est un vrai drame social, économique, et qui a des répercussions aujourd'hui sur la vie des gens. Et bon, l'autre jour, j'entendais qu'on parlait de suicide et de dépression chez les étudiants. On peut s'attendre à ça aussi chez les musiciens, chez nous. Si ça perdure, il y a des gens qui sont dans des situations aujourd'hui intenables.
Quand on se retrouve comme là avec l'orchestre de Paris, Jody DeVos, Marianne Crébassa, comment ça se passe? On est dans ces petits souliers. Vous n'aviez pas dirigé l'opéra depuis février. On est un peu. Il faut se remettre de l'huile.
Non. C'est une grande joie. Ça a été une immense joie de retrouver ces artistes qui, pour beaucoup, sont des amis. Marianne Crébassa, Jody DeVos. Franck Le Guérinel, en fait, tout ça, c'est une famille qui se retrouve. Vous savez, on parle souvent de grandes familles, de la famille des artistes. Il y a une réalité. Pour beaucoup, ce sont devenus au fil du temps des amis. On s'adore, on s'apprécie. Et puis, quand on ne peut plus se voir comme avec nos propres familles, eh bien, c'est une grande souffrance. Se retrouver pour faire ce qui est le sens de nos vies, ça a été tout de suite, une immense explosion de joie. D'ailleurs, les répétitions ont été dans ce sens-là. Tout le monde était très heureux de se retrouver et de faire de la musique. Vous savez, de temps en temps, on nous dit, les artistes, il faut attendre encore un tout petit peu, attendez, soyez impatients, ils sont impatients de se retrouver. Ce que j'entends, c'est un enfant qui a envie d'aller jouer dehors, on lui dit, écoute, attends mon coco, il pleut, tu attends encore un tout petit peu, comme si c'était un caprice. C'est pas ça du tout, c'est la raison, notre raison de vivre. On n'est pas là pour s'amuser, c'est notre vie. Notre vie est faite pour faire de la musique, pour donner de la musique au public, faire vivre ces partitions que nous adorons. Il y a une nécessité professionnelle, on en parlait, et puis il y a une nécessité presque essentielle à nos vies. C'est pas un caprice, c'est une nécessité.
La musique française, c'est votre vie aussi, c'est une grande partie de votre vie artistique. Elle aura une place de choix dans vos programmations à Tours, c'est aussi d'ailleurs dans l'ADN du Grand Théâtre.
Oui, il y a eu à Tours une tradition de musique française. Je souhaite la développer, la cultiver. Donc cette première saison 2021 que j'ai dû concocter en 5 semaines est déjà à l'image de ce que je souhaite faire à plus long terme. La saison 2022 sera encore plus tournée vers la musique française, mais l'appréhendera d'une autre façon, avec des questions sur le style français, sur la langue française dans l'opéra français, des questions de base, en fait. Quand je suis à l'étranger, qu'en Asie, on me demande ce que c'est que le style français, ce qui fait la différence, ce que c'est que la musique française. Vous voyez, quand des musiciens japonais ou en Amérique du Sud me demandent ce qui pour moi est le style français, j'y réfléchis évidemment depuis des années. Il y a des choses que je sais dire maintenant, puis il y a encore des choses qui sont pour moi un petit peu du niveau de l'inconscient et que je peux parfois expliquer en les faisant. Mais voilà, donc on va réfléchir sur ce que c'est que le style français et la musique française. Y a-t-il une musique française, par exemple? C'est étonnant d'écouter une mélodie de forêt chantée en allemand, par exemple. C'est très étonnant, parce que si vous ne la connaissez connaissez pas, vous, il est très difficile de dire que c'est du Fauré ou du Massenet parfois. Enfin, donc, qu'est-ce qui fait le style d'une de la musique de l'opéra français? Est-ce que c'est simplement sa langue? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et si oui, quoi? Je suis persuadé, par exemple, que comme la philosophie française est, est une philosophie de la clarté, des lignes droites, des concepts simples, je pense que la musique française est une musique des mélodies simples. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va réunir des gens dont c'est la spécialité pour se pencher une fois pour toutes sur cette question, par exemple.
Il y aura toujours ce désir, ce plaisir de défricher, voire déchiffrer des partitions rares, parfois inédites, Laurent Campbellan.
Oui, 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 c'est une nécessité. Cette période, disons, qui va de 1860 à 1910, ces 50 ans ont été tellement riches, ça a été une explosion de tant de styles, de courants, de personnalités musicales qui se sont combattus, mélangés, qu'il y a eu à cette époque-là une floraison de chefs-d'œuvre. On n'en connaît que certains, et les autres sont passés au second plan. Et le travail, c'est d'aller trouver tous ces trésors et de les ramener, parce que vraiment, il y a des œuvres incroyables qui ont disparu de nos affiches.
Vous l'avez fait pendant de nombreuses années, pendant 11 ans, à Saint-Étienne, et vous avez notamment exhumé Les Barbares de Camille Saint-Saëns.
Mes germains ont franchi les remparts, des créneaux, on voit déjà l'armée entière. Comme un serpent déroulé ses anneaux dans un nuage de poussière.
Germain ont franchi les remparts, extrait de l'acte 3 des Barbares de Camille Saint-Saëns, avec la voix de Sean Mattet, le chœur, l'orchestre symphonique de Saint-Étienne, dirigé par Laurent Campellone, notre invité ce matin. Ce chœur, cet orchestre que vous avez dirigé pendant 11 ans, chœur auquel vous pensez tout particulièrement ce matin.
Oui, j'ai une pensée très affectueuse pour le chœur de Saint-Étienne, tous les artistes du chœur de Saint-Étienne dont je sais qu'ils sont dans le deuil, dans la tristesse depuis quelques jours. Une des figures les plus sympathiques, marquantes, attachantes du chœur, en la personne de François Bescobeau, vient de nous quitter. J'ai une pensée pour son épouse, Anne. Voilà, j'ai eu le grand honneur de travailler avec François pendant des années. Je sais que tous les metteurs en scène, tous les chefs qui sont passés par Saint-Étienne se joignent à moi pour signifier notre grande tristesse. C'était un immense artiste, un homme délicieux, et voilà, j'ai eu cette nouvelle malheureusement il y a deux jours. Je pense très fort à Anne. Voilà.
Laurent Campellone, en 10 ans à Saint-Étienne, comment votre travail a évolué? Qu'est-ce que ça vous a... Après, comment, comme directeur musical de l'Opéra et de l'Orchestre Symphonique de Saint-Étienne, ce travail-là sur la musique française vous a changé?
Je crois qu'il m'a permis, j'étais assez jeune en arrivant à Saint-Étienne, il m'a permis de peut-être de comprendre que les œuvres que je choisissais, que j'estimais nécessaires à faire connaître à nouveau au public, étaient passées aussi par la passion qu'on pouvait insuffler dans les orchestres ou les chœurs. Alors à Saint-Étienne, j'ai eu la chance d'avoir des équipes administratives, musicales qui m'ont suivi. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut être absolument certain d'avoir dans les mains un chef-d'œuvre pour le mettre sur les pupitres des musiciens. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, leur donner la joie, leur montrer que ils ont une grande, comment dire, un grand privilège d'être là pour la renaissance de ces œuvres. Je pense au Mage, par exemple, de Massenet. Quand les partitions sont arrivées sur les pupitres et qu'on a déchiffré les premières notes, il y a eu une espèce d'émulation comme ça. Enfin, autrement dit, il faut, si on choisit bien les œuvres, il faut avoir confiance dans la capacité des musiciens à s'émerveiller encore. Ça sera la même pour le public. Donc c'est ça que j'ai appris, c'est que ces chefs-d'œuvre sont des levures émotionnelles incroyables, et qu'il faut pas hésiter à les proposer aux musiciens.
11 belles années à Saint-Étienne, Laurent Campellone, mais qui ont fini avec cette décision du maire qui vous avait licencié, licenciement qui a été annulé par la justice. Ça a été une meurtrissure qui est refermée aujourd'hui?
Bah, c'est comme ça, hein. Voilà, c'est la vie. Dans la vie, on subit des choses malgré soi, c'est comme ça. Évidemment, je suis toujours en contact avec beaucoup de musiciens de l'orchestre, avec beaucoup de choristes. C'est toujours une famille de cœur très proche. Vous voyez, la disparition d'un des leurs me touche vraiment. Et voilà, donc ça reste, pour tout vous dire, j'ai pas pu retourner encore à Saint-Étienne, parce que c'est une ville dans laquelle j'ai tant de bons souvenirs et tant de... C'est comme revoir un ami très cher qu'on n'a pas revu depuis longtemps. Je pense que je serais un peu débordé par les émotions. Donc je n'ai que de bons souvenirs à Saint-Étienne, avec le public, avec l'orchestre, avec le chœur, et tant de beaux spectacles et tant de belles soirées que c'est ça que je garde en moi.
Voici maintenant... À Tours, on reste du côté de la Loire. Pourquoi avoir été candidat dans cette maison qui a été abîmée, là aussi, par des crises? Je rappelle, pour résumer, tout le monde ne suit pas cette actualité, que votre prédécesseur, Benjamin Pionnier, avait été vilipendé pour incompétence artistique par l'orchestre. Ce à quoi se sont ajoutées des critiques sur le management. Alors, on va pas commenter ça, mais vous avez été candidat. C'était pas une chose facile quand on se retrouve dans une maison comme ça, abîmée par une crise.
Non, mais il faut y aller. C'est-à-dire que quand, quels que soient les éléments qui avaient été portés à ma connaissance à l'extérieur, ils n'étaient pas nombreux, je comprenais que quelque chose se passait qui mettait en danger des groupes humains, que ça soit l'orchestre, le chœur, l'administration. Enfin, quand il y a des crises comme ça, c'est toujours la somme de beaucoup de malentendus, de tensions, qui se dégradent. Et voilà, j'ai eu des sollicitations, disons, de personnes qui pensaient que je pouvais être la bonne personne pour remettre un petit peu ça en place. Bon, j'ai beaucoup réfléchi, parce que ça signifiait pour moi d'annuler beaucoup de contrats, d'être sur place beaucoup de mois dans l'année. Évidemment, il s'agissait pas de le faire à moitié. Donc C'était une décision que j'ai pris du temps à prendre, quoi, voilà. Et puis donc, une fois que j'ai pris cette décision, j'ai essayé d'envisager la façon de sortir cette maison de la situation dans laquelle elle était. Eh bien, voilà, on est dedans, et en arrivant, la mission qui m'a été donnée par Emmanuel Denis, le maire de Tours, et par Christophe Dupin, l'adjoint à la culture, c'était faites une saison pour 2021. Et puis remobiliser tout le monde autour de cette saison, malgré la crise sanitaire, c'est quand même pas rien de la part d'un maire et d'un adjoint d'avoir la volonté que cette institution qui était un peu au bord de l'implosion renaisse à travers l'art et à travers un projet artistique. C'est la meilleure façon de faire, et on s'y attelle. Et je dois vous dire que depuis mon arrivée, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est à la fois la compétence des équipes et leur amour pour cette maison. Je veux dire, les gens ne comptent pas leur... ils sont très fiers de cette maison, et ils ont tous, à leur niveau, souffert, comme toujours dans ces crises-là. Personne n'y gagne. Tout le monde a vraiment souffert de cette période, et tout le monde veut absolument tourner la page. Donc ils sont... c'est très touchant de voir des gens à ce point mobilisés, à ce point volontaires, avec une telle énergie pour redonner de l'Opéra de Tours une bonne image, et en refaire un lieu culturel important.
Redonner de la joie, et notamment, pourquoi pas, avec Offenbach.
Je sais des pays vermeils qui va courir la gazelle, un oiseau mouche qui tincelle au feu doré du soleil, ou sur les bords des ruisseaux on rencontre la panthère. Son cri solitaire au chant des plus beaux oiseaux. Magali, c'est joli, colibri, mes chéris, et vous perroquets, babi, garçon discret, dites-moi bonjour, faites tous vos retours. Magali, c'est joli, colibri, mes chéris, oui, troupe joyeuse, chantez me pour vous.
Jacques Offenbach avec Jolie de Vos, l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone, notre invité ce matin. Superbe disque Offenbach Coloratour, paru il y a 2 ans, qui a eu toutes les récompenses. Faudrait remettre ça avec Jolie de Vos, Laurent Campellone.
Alors c'est prévu dans 10 jours. On va enregistrer non pas un deuxième volume Offenbach, mais un deuxième volume avec Jolie, de musique française, d'opéra comique du 19e siècle, avec des partitions totalement inconnu, je vous le garantis, d'Ambroise Thomas, de Aubert, de Meyerbeer, des choses dont même vous ignorez le titre.
On va suivre ça de près. Offenbach est au programme de votre première saison. Ce sera la toute fin de l'année, Offenbach, en décembre, avec un tout jeune metteur en scène, qui commence ses mises en scène lyriques.
Qui fait ses débuts à la mise en scène. Il s'agit de Christian Lacroix, qui donc va mettre en scène La Vie parisienne. Et La Vie parisienne qui parle de Paris et de la fête et de ça va être évidemment incroyable de voir ça sous les yeux de
Christian Lacroix. Donc le couturier. Hein.
Ah oui, le couturier, l'immense couturier, oui. Qui va donc nous montrer son pari fantasmé. Et je pense que ça va être assez inouï de voir ça, oui.
Parmi les productions qu'on va guetter de près à Tours, que vous avez programmées, on parlait de Saint-Saëns tout à l'heure, il y a aussi ce Saint-Saëns, la princesse jaune. Alors ça aussi, c'est une plus que rareté, couplée avec Djamilé de Bizet en octobre. On fête Saint-Saëns aussi cette année.
On fête Saint-Saëns cette année. La princesse jeune, moi je ne l'ai jamais entendue sur scène. J'ai dirigé l'ouverture plusieurs fois. Et d'ailleurs, il y a un document incroyable qu'on va dire à vos auditeurs d'aller regarder. C'est Saint-Saëns qui dirige l'ouverture de la princesse jeune quand Sacha Guitry l'a filmé. Et donc on voit Saint-Saëns diriger un orchestre imaginaire, puisque c'est, je crois, Alfred Cortot qui est au piano. Et on voit Saint-Saëns battre la mesure et diriger un orchestre qui n'existe pas, donner des entrées à des musiciens qu'il n'a pas sous les yeux. Voilà, allez voir ça. Et puis pour l'œuvre complète, il faut venir en octobre chez nous avec ses couplets avec le Djamilé de Bizet.
Vous allez peu diriger à l'Opéra de Tours d'ailleurs, parce que vous êtes, soyons précis, le directeur général, donc avec des fonctions administratives, de management, de gestionnaire. Comment un chef d'orchestre sait faire tout ça ?
D'abord parce que pendant presque 11 ans, j'étais directeur musical à l'Opéra de Saint-Étienne et que à ce titre-là, j'assistais à beaucoup de délibérations, de réunions et donc j'ai été amené à me pencher sur beaucoup de questions et de problématiques qui dépassaient ma fonction de directeur musical. Et puis, c'est comme ça. Le fonctionnement d'un opéra, vous savez, n'est pas très différent d'une ville à l'autre, même s'il y a des régies différentes. Et puis la décision a été de ne pas diriger beaucoup. Deux œuvres lyriques par saison, parce que je ne connaissais pas précisément l'orchestre. Il y avait une défiance pour eux par rapport au cumul du directeur musical et du directeur général. Donc il fallait que cette défiance n'ait plus de raison d'être. Et on va se voir deux fois, une fois en octobre, et ensuite dans la saison 22, on se verra deux fois. Soit le courant passe et on a plaisir à faire de la musique ensemble et on continuera. Sinon, ça sera pas. J'espère que ce que je sais faire, je vais le faire pour eux bien et pour le public. Et je pense qu'on aura grand plaisir de ce que je vois, de ce que je vois des personnes qui composent cet orchestre. J'ai pas trop d'inquiétude. Je pense qu'on va avoir grande joie à faire de la musique ensemble pour le public de Tours.
Cette nouvelle fonction de directeur général, Laurent Campanane, va forcément vous éloigner un peu des pupitres. Est-ce que c'est un crève-cœur? J'imagine que vous l'avez beaucoup réfléchi. Est-ce que ça va pas brouiller même votre image, votre identité artistique?
C'était une des questions que je me suis posée au moment où je réfléchissais à tout ça. Évidemment que prendre une deuxième casquette, ça brouille les pistes et ça brouille l'image qu'on peut avoir. C'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de joie à être à la tête d'une institution lyrique, beaucoup de responsabilités. Ce qui est passionnant aussi, il faut le dire, c'est de mettre ensemble des chefs et des metteurs en scène, des artistes qui ne se connaissent pas. Donc ça, c'est quand même une grande joie. Je continue à diriger. Ceux qui pensent que l'un se substitue à l'autre, tant pis. Pour moi, ça ne se substitue pas. Ça se complète de la façon la plus belle qui soit.
Allez, on va se quitter avec un compositeur cher à votre cœur et avec ce cœur et cet orchestre cher à votre cœur aussi que vous avez dirigé pendant 10 ans. C'est l'Orchestre Symphonique Saint-Étienne-Loire et son cœur. Et dans la musique de ce Stéphanois, Jules Massenet, le mage que vous citiez, c'est la fin de cet opéra. Merci beaucoup Laurent Campanane.
Merci à vous.
À bientôt à Tours.
À bientôt avec plaisir.
Oh,
La fin du Mage de Jules Massenet, l'Orchestre Symphonique Saint-Étienne Noir, dirigé par Laurent Campellone, notre invité. Vous retrouverez sur le site de l'Opéra de Tours toutes les informations sur cette saison qu'on espère qui va démarrer en vrai, avec un vrai public, le plus vite possible.
À réécouter sur francemusique.fr.